Bonjour, shalom, assalam alaikum. Nous sommes le mercredi 20 décembre 2023 et c'est Noël, jour J-5. Je sais que les papas généreux, attentionnés et bienveillants que nous sommes, nous commençons déjà à préparer les cadeaux pour nos enfants, pour nos neveux et pourquoi pas nos petits-enfants pour ceux qui sont déjà pépés et mémés. Et nous vous saluons pour votre bienveillante fidélité d'écoute au Club La Presse que vous écoutez sur Canal FM Lomé ici, mais également sur les antennes des radios partenaires à Anéro, à Takpamé, à Baganiamtougou, à Sokodé, à Bassar, à Dapan, mais également en différents endroits de la planète Terre, que ce soit sur les radios numériques, Radio Le Bénin et Bénin Radio, l'application Canal FM ou encore la chaîne YouTube. Tout ça, c'est grâce aux techniciens Victor Gwekoku, Michel Tomega et Jérôme Kodjo Akucha. L'émission que nous co-animons avec les confrères et consoeurs au studio, ils sont déjà trois. Nous attendons un quatrième, mais également et surtout avec vous au bout des ondes. Aujourd'hui, nous allons parler naturellement santé, à l'apparition de santé et éducation, notamment comment allier le plaisir et la santé en ces périodes de faim. Vous nous direz, est-ce que alcool et fête font toujours bon ménage? Et puis, si vous arrive d'uriner et que vous sentez quelques brûlures, à quoi cela peut-il être dû? Et si malheureusement on venait à être malade, Santé Éducation nous rappelle l'hôpital Docteur Lafière, qui est présenté comme une réussite nationale, pendant que l'hôpital Bethesda d'Agounobo ouvre également ses portes. Nous sommes aujourd'hui, le 20 décembre, c'est la journée internationale de la solidarité humaine. Laquelle solidarité nous allons revisiter au vu de quelques chapitres. Et puis, les choses qui se mettent en place pour les prochaines élections, notamment régionales et législatives. Et bien d'autres sujets de l'actualité tels que les journaux l'ont écrit aujourd'hui. Journaux dont Le Libéral avec son directeur Fabrice Paton-Pétiesi, bonjour.
Bonjour Sassé, bonjour à tous les auditeurs.
Merci. Journaux également dont...
Gazelle Info.
Gazelle Info avec sa directrice de publication Estelle Koudjonou. Bonjour.
Bonjour Sasso, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM.
Et voilà. Journaux également dans Santé Éducation avec son directeur Gadiel Kokou Gameli Tchonyadji. Bonjour.
Sasso, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin.
Assurons-nous de la présence effective de notre confrère invité pour vous le présenter. Mais déjà, nous pouvons partager la pensée du jour. Je rappelle que le 20 décembre, c'est la journée internationale de la solidarité humaine. À ce propos, l'écrivain Adil Mesbahi écrit que l'individualisme nourrit la peur pendant que la solidarité nourrit l'espoir. Encore une fois, l'individualisme nourrit la peur pendant que la solidarité nourrit l'espoir. Nous reviendrons incessamment à la solidarité, mais assurons déjà que nous sommes en bonne santé. Gadiel, rebonjour.
Oui, ça c'est rebonjour.
Comment allier le plaisir et la santé pendant ces périodes de fêtes? Notamment, c'est cet article que vous nous recommandez à la page 3, Santé Éducation.
Effectivement, un article original qui nous donne un certain nombre de conseils. Vous savez, ça pendant les fêtes, pour beaucoup de gens, c'est un moment où on se décontracte, que ce soit côté alimentaire, côté boisson, on va vers des choses qu'on ne prend pas tout le temps, et des fois cela peut conduire à des conséquences néfastes après les fêtes. Alors, ce que nous proposons dans cet article, c'est comment faire la fête, mais garder l'œil sur les principes de santé. D'abord, les plats. Faisons des plats santé. C'est absolument important. Faisons des choix, des aliments qui vont assurer notre santé. N'oublions pas le sport. Et puis, sont dans la gaieté parce que ce sont des moments de fête. On dit le mois de décembre, c'est le mois de la joie, c'est le mois des fêtes. Donc, soyons dans la gaieté avec la famille, avec les amis. En tout cas, assurons-nous que nous allons sortir de cette période de fête avec un plus sur notre mental, sur notre santé, sur notre détermination à affronter l'année nouvelle. Donc, c'est un peu quelques petits conseils qui sont donnés dans cet article.
Autrement dit, bien passer les fêtes, se réjouir, bien fêter seul ou avec les autres, mais en préservant sa santé, allier santé et plaisir. Cet article à la page 3. Mais Gadiel, d'aucuns nous diraient que la fête rime avec bonne bouffe, avec beaucoup de musique, mais également avec les alcools. Alors, cela nous amène à cet autre article, « Alcool et fête, attention aux excès », c'est votre exhortation.
Effectivement, vous savez, ça, comme on le dit d'une manière populaire, c'est l'alcool qui fait la fête. Hein? Bon, donc, quand il y a la fête quelque part, il n'y a pas l'alcool, ce n'est pas vraiment la fête, en tout cas pour beaucoup de gens, je crois. Et dans cet article, nous tirons sur un certain nombre de clichés que nous devons considérer pendant ces moments de fête. D'abord, l'alcool. L'alcool, en tant que produit sur le marché, attention, il y a beaucoup de faux sur le marché. Mm-hmm. Beaucoup de faux, pour ne pas dire trop de faux. Trop de faux, je veux dire. Donc, sachant là où nous avons fait le choix de nos bouteilles d'alcool, et c'est absolument important. Et maintenant, en ce qui concerne l'excès, faisons extrêmement attention parce que l'excès de l'alcool, vous savez, il y a des gens qui disent « Oh, pour une fois, ça ne fera absolument rien. » Attention, vous allez prendre de l'alcool en excès pendant les périodes de fête et cela va vous rendre malade pour toute votre vie. Donc, attention à l'excès de l'alcool. Hein. L'alcool, selon les études, peut causer 200 maladies. Donc, quand vous prenez de l'alcool, vous pouvez choper plusieurs maladies. L'alcool peut faire du tort à votre foie, à votre cœur, aux vaisseaux sanguins, à votre cerveau. Donc, on peut sortir des fêtes totalement défaits par l'alcool. Et puis, comprenez bien que tous ceux qui peuvent éviter l'alcool, ce serait aussi bien. Mais ceux qui veulent prendre de l'alcool, qu'ils se surveillent, qu'ils n'aille pas à l'excès. C'est absolument important.
Merci. L'excès en toute chose est nuisible. C'est ce que nous rappelle cet article. L'alcool, si on en abuse, on s'expose à pas moins de 200 maladies. Dont ce que nous révèlent les colonnes du Lancet Public Health, qui révèlent, selon des chercheurs français, qui montrent que l'alcoolisme peut multiplier par 3 le risque de démence, en général, pour ne pas dire de folie. Et le risque, l'excès d'alcool également peut multiplier par 2 les risques de développer la maladie d'Alzheimer, terrible maladie s'il en est.
Absolument, donc je ne pense pas que quelqu'un voudrait être dans l'excès pour choper une maladie chronique qu'il va traîner durant toute sa vie. Attention à l'excès, c'est vrai que l'excès est relatif, d'aucuns diront c'est quand on est à l'excès, mais au niveau de chacun, on se connaît, il faut vraiment faire attention pour ne pas aller à l'excès.
Et quand nous disons excès, c'est non seulement pour les boissons alcoolisées, mais également pour les boissons énergisantes et autres, parce que cet autre article qui doit attirer notre attention, alcool et boissons énergisantes peuvent produire un cocktail encore très nocif.
Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui des gens qui mélangent les boissons énergisantes avec de l'alcool? Nous voyons très souvent, surtout au niveau des plus jeunes, c'est absolument assassin. C'est catastrophique comme produit qu'on peut mettre dans le ventre. Donc, nous attirons encore l'attention des uns et des autres. À certains mélanges qu'on fait pendant les fêtes, on mélange beaucoup de boissons, sucreries, alcool, tout. Parce que c'est les fêtes, attention, mais dans l'organisme, ça va créer un dommage qui peut suivre toute la vie.
Merci Estelle. Aussi bien pour les alcools, qu'elles soient bonnes ou frelatées ou trafiquées. Et également pour toutes les nourritures, tous les plats que nous allons mijoter pour ces périodes de fête. Et il y a déjà quelques temps que l'Association Togolaise des Consommateurs et la Ligue des Consommateurs du Togo se mettent à l'unisson pour attirer notre attention sur la qualité de ces aliments en boîte ou pas, de ces alcools qui pullulent sur le marché, c'est la période des... Comme on dit souvent là, je vois Dragban, c'est les soldes, c'est ceci et cela. Faire attention à ce que nous achetons, que ce soit aussi bien pour les aliments, la nourriture, que pour les alcools.
Oui, c'est important de le rappeler, puisque quand il s'agit des questions de santé, c'est des questions d'ordre public et d'intérêt général. Il est important que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et pourquoi pas le ministère du Commerce face à ces périodes-là des descentes inopinées sur le terrain, histoire de vérifier un peu la quantité et la qualité des produits qui sont de consommation qui sont proposés aux populations. Tu as fait bien de le rappeler, c'est la période des liquidations, des soldes et tout ce qui s'en suit. Parfois, tu remarques, même si tu es un peu plus regardant sur les achats, que certains produits sont en l'entame même de leur date de péremption avant qu'on ne déverse ça sur le marché. Et comme le coût est réduit, les populations les acquièrent aveuglement sans vérifier grand chose. C'est vraiment important de le souligner. Et par rapport à, je crois que c'est OADEL qui avait mené également une enquête sur la consistance et la composition des tomates en boîte qui sont déversées sur le marché togolais a relevé qu'il y a une forte quantité de plomb dans ces produits-là et ça ne méritait pas d'être consommé puisque à long terme ça cause des problèmes, des dommages au niveau des reins qui sont essentiels également dans la circulation sanguine. Mais depuis lors, rien n'a bougé. J'ai entendu en vain pour que l'information soit vraiment relayée, saisie par les pouvoirs publics pour qu'on regarde de plus près cet état de choses et rectifier le tir, mais rien n'est fait et les populations continuent pas à consommer ces produits-là qui sont déversés sur le marché. Il est vraiment important d'attirer l'attention là-dessus, surtout à ces périodes festives-là.
Les autorités publiques toujours interpellées, mais nous sommes invités à jouer aux propres gendarmes de notre santé. Regardons bien ce que nous achetons pour ce qui est des produits en boîte. Et même pour les produits frais, les fruits, les légumes, assurons-nous que c'est vraiment frais. Et puis les poissons, la viande. Pour la viande, assurons-nous que ces bêtes ont été vraiment abattues sous la couverture de l'Office national des abattoirs frigorifiques, l'ONAF. Et puis les poissons congelés et tout ça là. Les autorités, d'accord, mais c'est nous qui achetons avec notre argent. Et c'est nous qui risquerions d'être malades si nous manquons de vigilance.
Oui, au moins les produits avec les dates de péremption, on peut se confier à cela et dire, ou se fier à ça et dire, bon, il y a une date, même si parfois moi j'ai appris, selon les indiscrétions, que parfois même ces dates sont réécrites. Hein, ça arrive à échéance, mais on remet une nouvelle date là-dessus avec des procédures un peu entre griffes. Mais si on se fie à ces dates de péremption, les poissons, les viandes et tout, comment on peut se rassurer des conditions dans lesquelles les bêtes ont été quand même abattues si on n'a pas assisté à leur, à ces conditions-là? Donc, on se fie juste à ceux qui les vendent. Il leur appartient également de mettre en avant la santé humaine, le prix de la vie pour prendre soin de ces bêtes-là dans les conditions avant de les mettre sur le marché. Et comme je le dis, les services publics, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, le ministère du Commerce doivent mettre les bouchées doubles pour vraiment être regardants sur ces aspects-là.
Merci. Alors, j'enregistre fortuitement, disons pour ne pas dire opportunément, un communiqué signé de la ministre en charge du commerce, de l'artisanat et de la consommation locale. Qui porte à la connaissance des opérateurs économiques et des consommateurs que la vente des produits contrefaits, falsifiés et périmés est strictement interdite par la loi numéro 99-001-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence au Togo. À cet effet, Madame la ministre invite les consommateurs à redoubler de vigilance lors des achats de produits en cette période de fin d'année et a signalé toute pratique anormale de commerce en appelant le numéro vert 8585 opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je cite le ministre ou bien la ministre. Et par ailleurs, Madame la ministre rassure les consommateurs que des contrôles réguliers sont effectués sur toute l'étendue du territoire national par les services de contrôle compétents. Eh bien, ce qui est dit, maintenant reste que ce qui est dit soit fait.
En tout cas, il faut reconnaître que les deux structures qui ont fait cette étude sur le marché concernant les tomates en boîte mm-hmm. ont fait en tout cas un bon travail. Et je crois que dans le rapport, ils ont cité les marques de tomates. Mm-hmm. Si j'ai bien lu ce qui a été publié sur Internet, eh bien voilà, nous devons prendre cela pour ventiler l'information. Très souvent, l'information est là, mais sur les réseaux sociaux, on partage autre chose. Donc ça, au moins, les marques ont été données. Et si on va sur le marché, on doit ne pas prendre ces boîtes. Cette tomate en boîte.
Se référer donc au dernier communiqué de l'OADEL. Revenons à Santé Éducation avec ces brûlures que nous pouvons sentir ou ressentir, ces sensations de brûlure ou de démangeaison qui surviennent avant que nous urinions, pendant que nous urinions ou après. Vous en citez quelques causes ici et puis vous attirez la Santé Éducation, nous indique quelques facteurs qui pourraient déclencher ces sensations et les possibilités de traitement.
Oui, les brûlures pendant l'urine, ce n'est pas normal. Donc, quand on sent cela d'une manière récurrente, le premier geste à faire, c'est d'aller à l'hôpital pour mm-hmm. un diagnostic. Donc, c'est absolument important parce que ça peut être dû à une maladie qui ronge et il faut faire extrêmement attention à ne pas rester à la maison pour que cela arrive à un cas ou bien à une situation assez avancé. Mm-hmm. Ouais, donc c'est tout ce que je peux dire sur cet article. On sent les brûlures pendant l'urine, il faut aller consulter pour faire un diagnostic.
Merci. Il ne sent pas une brûlure avant ou pendant ou après avoir uriné, mais il sent un besoin d'intervenir dans le débat de ce que nous consommons en cette période de fête, n'est-ce pas Fabrice?
Oui, non, en fait, je voulais pas parler, mais quand j'ai vu le communiqué du ministère que tu viens de lire et oui. on parle de descente inopinée sur le terrain, pour moi, ça me surprend un peu. Bon, peut-être qu'au niveau de certains produits, oui, mais parlant de l'alcool et les boissons frelatées, mais c'est comme si c'est autorisé. C'est juste à côté, un peu partout, vendu à ciel ouvert sous le chaud soleil et tout cela. Et à un prix très moindre. Oui. Et celui qui va l'acheter, c'est qu'il n'achète pas le bon. Mais il l'achète. C'est pour cela que j'étais d'accord avec toi quand tu insistais sur la conscience individuelle de tout un chacun. C'est-à-dire que je sais que ce n'est pas du bon whisky qui est vendu à, je sais pas, 1200 ou je sais pas, sur le trottoir. Je sais que ce n'est pas le bon. Et la bonne dame même te dit que ça, ce n'est pas le vrai. Mais j'achète.
Bon, elle sait que c'est pas le vrai, mais oui. elle te le vend.
Et le ministère sait que la bonne dame, ce qu'elle vend là, c'est pas du vrai. Et les douaniers savent, au niveau des frontières, où parfois ces produits-là transitent avant d'entrer, ils savent que ça aussi, c'est pas du bien, ça entre. Bon, mais quand on sort un communiqué comme ça, bon, peut-être pour satisfaire Estelle qui dit que l'État doit faire quelque chose.
Non, il ne s'agit pas de pondre des communiqués, il faut agir.
Oui, c'est pour ça que je dis, pour que quand puisse, tu interpellais les autorités, oui, on te satisfait.
Non, je ne suis pas satisfaite
à la réalité sur le terrain, on n'a pas besoin de faire des études pour savoir que vous allez dans des supermarchés en cette fin d'année. On prend certains biscuits, on les met au milieu du supermarché et le coût est moindre. Vous pensez que c'est un cadeau? C'est pas à dire le commerçant s'est levé comme ça et il se dit que bon, il y a un biscuit qui est rangé sur les étagères qui coûte cher et le même biscuit de la même marque est au milieu du supermarché regroupé quelque part avec d'autres boîtes, il coûte moins cher. Posez-vous la question, pourquoi celui-ci est moins cher? Oui. C'est parce qu'il est périmé. Mais on achète.
Oui, en interpellant aussi les autorités, par exemple, c'est contrôler le circuit d'entrée de ces produits-là.
Absolument.
Comment est-ce que ces produits entrent sur le territoire avant qu'on ne ponde maintenant des communiqués en aval pour dire qu'il faut faire attention? C'est là l'interrogation principale.
Oui.
Il ne s'agit pas de prendre un communiqué pour me satisfaire ou pour calmer mes ardeurs.
Estelle, là où Fabrice a raison, c'est justement au moment où tu interpelles.
Tu interpelles que le communiqué est venu. Et c'est pour ça que je dis, non, c'est pas une question de communiqué. communiquer. La réalité sur le terrain est là.
Justement.
Merci, merci. Eh bien, la maladie est toujours là, avant les fêtes, pendant les fêtes, après les fêtes. C'est à ce sujet que Santé Éducation nous rappelle ces deux hôpitaux dont nous parlons beaucoup ces derniers temps. Il s'agit de l'hôpital Dr Lafia, qui dispose même d'une succursale au sein de la cité Millennium, c'est ça?
Oui.
Oui, donc hôpital Dr Lafia, que Santé Éducation présente comme une réussite nationale. Mais à chaque fois que nous évoquons cet hôpital, c'est les commentaires qui affluent des auditeurs. C'est la preuve que chacun est vigilant sur ce qui se passe autour de nous.
Docteur Lafie.
Lafie. Ok, merci.
C'est pas Lafia.
Ok, docteur Lafie.
C'est quoi la nuance?
Et puis l'autre hôpital également, c'est l'hôpital Bethesda d'Agounobo, qui se redynamise pour se mettre à notre service. Merci Gadiel pour toutes ces informations fort utiles pour notre santé. Je l'annonçais, il est arrivé, il s'est fait signaler lui-même en me corrigeant de Dr Lafia à Dr Lafia. C'est Kwaku Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Canal FM.
Merci, je rappelle que la pensée du jour que nous choisissons aujourd'hui est tirée de l'œuvre de Adil Mesbahi, qui nous rappelle que l'individualisme nourrit la peur pendant que la solidarité nourrit l'espoir. L'occasion donc de la Journée internationale de la solidarité humaine, dont les objectifs consistent à sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la solidarité. Également, célébrer notre unité et notre diversité, nous mettre ensemble à lutter contre la pauvreté et promouvoir le partage en sauvegardant la dignité de l'autre. Ceux et celles que nous aidons, nous devrons veiller à souligner, à promouvoir, à sauvegarder leur dignité. C'est ainsi que, il y a quelques heures, j'ai surpris fort opportunément le sieur Franck Etienne Sego en train de préparer des cadeaux de Noël pour les enfants de la commune Zio 4, dont il est le maire. Joka, c'est l'une des communes rurales, chef-lieu Gapé-Centre. Donc, il préparait, Sego et ses collaborateurs préparaient des cadeaux de Noël pour les enfants de Gapé, de tous les villages et cantons de la commune Zio 4. Et opportunément, le sieur Sego et Thier Franck se retrouvent nominés comme meilleur homme manager de l'année 2023 par Togo Top Impact, dont la finale aura lieu incessamment. Et à ce sujet, le triangle des enjeux paru aujourd'hui nous indique comment voter Sego Etienne Franck pour meilleur homme manager de l'année. Mais cette dame aussi aurait pu être nominée par les uns et les autres. Il s'agit de la présidente du foyer Appel. Le foyer Appel, c'est un foyer à Tocouin, ici, à côté de l'EAMO, qui recueille les enfants en situation de rue, les enfants orphelins, que le foyer Appel entretient et s'occupe d'eux jusqu'à... Il y en a qui ont fait le collège et le lycée, des gens passés par là, qui sont aujourd'hui des cadres publics et privés. Et pendant que nous sommes au studio, eux également sont en train de fêter la Noël pour les enfants. Et ça nous introduit à tes titres de la manchette dans le lot de la solidarité. La manchette nous produit le dossier sur les ex-employés licenciés de l'hôtel La Paix, ces dames et messieurs qui se retrouvent en situation de souffrance, mais ils ont pu rencontrer le ministre Pierre Kossi Lamadoku il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a un espoir qui pointe à l'horizon pour ces dames et hommes qui se retrouvent sur le carreau depuis que l'hôtel La Paix est fermé? Sylvestre.
Bon, l'espoir, je crois que ça, tout se repose sur aujourd'hui une décision du chef de l'État, parce que toutes les demandes, toutes les initiatives ont été prises par ces employés. Ils sont allés même voir, donc ils sont allés à l'Assemblée nationale, ils sont allés voir même le HCOM, madame Awanana Daboya, ouais. qui
HCOM, c'est le Haut Commissariat au renforcement de la réconciliation de l'unité nationale.
Donc, même entre-temps, selon donc leur déclaration, le chef de l'État a dépêché donc l'économiste Sodoquin qui a échangé avec eux.
Qui est conseiller à la présidence de la République,
qui a pu échanger avec eux au niveau donc de l'ancien président, qui a recueilli donc leur doléance et tout. Donc après, c'était dit qu'on devait on devait revenir, hein, donc pour les. Vous payez donc les salaires. En réalité, ils ne demandent pas de dommages et intérêts, ils demandent juste les salaires, les impayés. Mais jusqu'à aujourd'hui, depuis que cet hôtel a été fermé, je crois, le 31 janvier 2016, officiellement, puisque entre-temps, le dernier directeur à la personne du Togolais, Alessandra Dekambi, était là jusqu'en 2012, a été rappelé d'ailleurs en 2012 et qui a pu travailler un peu avant qu'on ne puisse fermer officiellement donc, l'hôtel. En janvier, 31 janvier 2016. Donc, depuis là, ils sont là, ils n'ont rien. Lorsque vous le voyez, c'est pourquoi nous avons mis, ce sont quand même des employés en souffrance, parce que lorsque vous voyez, excusez-moi, ces papis, ces mémés qui ont travaillé, qui ont donné donc, toute leur vie à une œuvre nationale et qui après, on ne se soucie pas d'eux. Je crois que la dernière fois, bon, disons heureusement, puisque plus personne ne veut les recevoir, si on peut le dire ainsi. Et donc, la dernière fois, le ministre Lamadoku les a reçus parce qu'ils sont allés faire un sit-in. Vous imaginez des gens donc de troisième âge aller encore faire un sit-in avant pour demander à ce qu'on puisse pour rentrer dans leurs droits. Et donc, le ministre était obligé de les recevoir et il a dit il va faire diligence. Hein, il ira voir donc le chef de l'État pour qu'on puisse les soulager selon les thèmes. Qu'on puisse les soulager. Et puis, nous avons même appris que, déjà, la fermeture, le chef de l'État s'est personnellement impliqué et a demandé que, vu donc la situation donc, du pays, vu donc la situation financière, il faudrait qu'on puisse arrêter l'état financier sur 2008. Donc, on laisse les autres années. Donc, on arrête l'état financier sur 2008 afin que l'État soit en mesure donc, de les payer. Mm-hmm. Mais depuis lors, bon, si vous voyez donc dans le journal ce matin, nous avons descendu donc les chiffres et tout, et beaucoup sont déjà décédés. C'est ça en fait le drame. Ils espéraient juste à ce que leur caveau ne puisse, l'amour ne puisse siffler peut-être leur caveau sur terre. Merci. Donc véritablement que l'État, surtout le chef de l'État, parce que leur dernier espoir aujourd'hui c'est le chef de l'État. Que les chefs de l'État puissent faire diligence afin qu'on puisse les soulager. C'est important.
Voilà, ces dames et messieurs qui avaient travaillé, qui se retrouvent sur le carreau depuis que l'hôtel La Paix est fermé. Sylvestre le rappelait, certains sont morts, d'autres sont encore là, mais ils sont dans le troisième âge. Et nous qui nous approchons du troisième âge, nous savons que c'est le rendez-vous de toutes les maladies. Hein? Et surtout si certains encore se retrouvent avec des enfants mineurs sur les bras, on doit imaginer un peu l'acuité de leur situation. Et à l'occasion de la journée internationale de la solidarité humaine, et le ministre Lamadoku et au sommet le chef de l'État et les bonnes volontés devraient se sentir et interpellés pour voir comment on peut faire pour cela. Et non seulement ceux de l'hôtel La Paix, mais également ceux qui avaient travaillé à la SNPT ou bien au TP qui ont été licenciés depuis 2009. Depuis 2009, oui, ça fait déjà 14 ans en allant. Ils sont encore sur le carreau aussi. Leurs droits, toujours pas honorés. Hein, alors que non seulement c'est la solidarité, mais Fabrice Pétiesi, depuis quelque temps, le chef de l'État, Forn Yassingbé, m'a dit que dans sa gouvernance, personne ne devrait rester sur le carreau.
Oui, et je crois que c'est suivi des faits parce que quand vous allez au niveau du médiateur de la République, vous allez voir beaucoup de cas d'injustice quand même qui ont été réglés. Ils ne font pas du bruit, mais il y a des gens individuellement qui ont quand même, sans avoir personne derrière eux, comme on le dit dans notre pays, ont réussi quand même à se faire justice sur certains points. Et je crois que dans le cas de l'hôtellerie, c'est récurrent. Il y a eu quelques années aussi, il y avait ceux de 2 février aussi, qui entre-temps avaient fermé, bon, qui aussi trimaient, qui réclamaient. Finalement, je ne sais pas s'ils ont été satisfaits ou alors c'est devenu la résignation totale. Je crois que le ministre a bien fait de les recevoir. Il faut vraiment penser. Ils sont pas nombreux. Il faut penser à trouver une solution définitive pour qu'ils puissent peut-être, même s'ils ne retrouvent pas leur boulot, vu leur âge aujourd'hui. Mais au-delà de tout, ça relance le débat sur la gestion des hôtels publics à une certaine époque. Ça date d'aujourd'hui. Vu qu'à un moment donné, il n'y a pas eu vraiment du sérieux dans la gestion d'hôtels. Beaucoup ont fermé. Et au lieu de déclarer faillite, parfois, quand on me parle de l'hôtel de la paix, on me parle des années 2016, je suis surpris, parce que ce bâtiment-là est abandonné il y a longtemps. Il paraît même que certains sont allés carrément loger là-bas, faute de moyens d'aller. Donc, c'est.
Alors qu'on est squatté.
Qu'on soit allé squatter, ouais. Et donc, ce qui fait mal, surtout pour la capitale de Lomé, je crois qu'il faut relancer le débat sur l'hôtellerie au Togo. Et peut-être faire vraiment voir des analystes économiques, voir est-ce que c'est un domaine rentable. Quand je vois ce que est devenu aujourd'hui Daoba, quand je vois.
Palm Beach.
Oui. Et quand je vois hôtel, moi je n'ai pas vu une meilleure architecture quand je vois l'hôtel de la paix. Entre temps, il y avait une idée de démolir. J'ai dit, mais si on peut reproduire le même plan, ça c'est. Mais c'était une très belle architecture. Prenez les images de Lomé des années 78-80, c'est-à-dire la route qui longe la plage, mais c'était beau, avec des cocotiers et tout cela. Mais c'est quand même dommage qu'au fur et à mesure qu'on avance, c'est en ce moment ça se dégrade. Il faut relancer vraiment le débat sur l'hôtellerie au Togo. Parce que aujourd'hui, on a quand même des bâtiments qui servent de décor pour la ville, mais qui ne sont vraiment Palm Beach. Il faut réfléchir. Parce que si on enlève aussi ce bâtiment du décor au niveau de Lomé, Lomé change. Lomé change complètement. Parce que Palm Beach, ça fait partie quand même des identités de Lomé. C'est privé, je suis d'accord. Mais il faudra repenser. Et un hôtel avec ouverture sur la mer, dans d'autres pays, ça c'est de l'or. Ouais. Mais on ne comprend pas comment des hôtels qui ont une ouverture sur la mer peuvent se retrouver dans des situations. Est-ce que ça a été une mauvaise gestion? Tout ça, il faut réfléchir et voir exactement.
Non, ta question est pertinente. Hein. Non seulement les hôtels de Lomé, mais également de l'intérieur du pays. Combien de fois n'avons-nous pas posé le problème de le 30 août à Takpamé, Abuta, Badou, Rock Hotel à Takpamé, Hôtel Central à Sokoné, Hôtel Kara à Kara. Le débat revient avec récurrence. Est-ce que le marché togolais est véritablement viable pour une industrie hôtelière, ou bien est-ce que c'est un problème de management? D'autant plus que ce problème touche aussi bien les hôtels publics que privés. Et tu as mentionné opportunément l'hôtel Daoba, l'hôtel en bordure de mer là.
Palm Beach.
Ouais. Mais il y a également l'hôtel Miramar,
l'hôtel Tropicana,
qui était très bien, Tropicana. Qui a beau changer de nom, mais qui se meurt. L'hôtel Tropicana. Aujourd'hui, il n'y a que le site qui a servi à abriter les réfugiés
ivoiriens.
Je pense que en bon économiste, on devrait être le problème. Est-ce que le marché togolais est vraiment viable pour accueillir une industrie hôtelière, même si un auditeur taquin me signale que ce sont les chambres de passage qui font la concurrence aux grands hôtels. Là, je ne sais pas trop. À Moscou,
c'est pas la même chose.
Il y avait un projet aussi. Oui. Entre-temps, il y avait un projet au temps donc du premier ministre Okombo. Il y avait un projet donc de démolir l'hôtel de la paix et de construire donc un hôpital de référence pour la sous-région. Je crois que l'idée faisait son cours. Même la TVT l'avait annoncé et tout ça, mais après, bon, patatras, on ne sait pas ce qu'est devenu donc ce projet-là. Donc,
mais revenons à notre solidarité humaine qui devrait culminer avec la Noël, c'est dans 5 jours. Pour le chrétien, c'est la fête de la nativité avec toutes les charges religieuses, mais pour le monde profane, c'est la fête populaire. Mais dans quelle ambiance allons-nous célébrer la Noël? Cet article de l'article, situation d'asphyxie économique, les évêques, Noël et le goût. en une ou deux phrases, Sylvestre Koukou-Béni?
Oui, pour une fois, on va laisser un peu la politique et nous concentrer sur le volet économique.
Mais la politique revient au galop bientôt.
Oui, revient toujours au galop. Mais nous avons quand même pris les messages donc, des évêques du Togo de 1998, donc au dernier message. Et nous avons juste pris le volet économique. Vous verrez qu'à chaque fois, les évêques reviennent et avec insistance sur les types de Togolais que nous avons. Malheureusement, c'est-à-dire que des Togolais qui deviennent encore plus des riches, qui deviennent encore plus riches, et les pauvres qui deviennent misérablement plus pauvres. Et donc, depuis 1998, ils ont touché donc du problème, ils ont évoqué les faits de corruption, le népotisme et tout ça. Et ils alertaient déjà que si rien n'est fait, que dans la situation risque de perdurer. Et puis voilà quoi. Et même c'est eux, quand nous lisons un peu quelques messages, c'est eux qui ont annoncé même que c'est il y a un petit nombre qui prend donc les richesses nation au détriment. Donc avant que même le chef de l'État ne le puisse le, je crois, en 2012, dans son discours de 2012. Donc ça veut dire que déjà ils alertaient un peu sur la situation. Et puis dans un autre message, ils disaient que ce qui est choquant, c'est que les institutions qui sont censées donc et œuvrer pour l'équilibre social, que ces institutions prennent fait cause donc pour un camp, c'est-à-dire celui des riches et six cantons. Voyez-vous? Alors, lorsque vous prenez tous ces messages-là, nous avons cité beaucoup d'extraits, et comparé à la situation que nous avons aujourd'hui, je crois que ça dépeint beaucoup plus la situation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 20, nous sommes à 5 jours donc de Noël, mais il y a eu une certaine morosité donc du pays. La lassitude est presque désespérante. Lorsque vous voyez le Togolais, il n'y a plus de joie, c'est-à-dire que il n'y a plus de joie. Vous allez un peu au niveau donc de Asigamé, les commerçants ont la main, c'est-à-dire que on se dit bon, où en sommes-nous, voyez-vous? Or parmi donc les 8 millions de Togolais, au moins il y a une poignée que le 25 sera Noël pour vous, pour eux, mais pour nous d'autres, le lundi, le 25 sera lundi, quoi. Vous voyez, parce que quand tu n'as pas d'argent, le 25 sera lundi pour toi, mais quand tu as de l'argent, le 25 sera Noël. Voyez-vous? Donc nous avons un peu dépeint cette situation en prenant donc tous ces messages. On dit, s'ils avaient été écoutés, peut-être que on n'en serait pas là
aujourd'hui. Les évêques, tout le monde religieux dans son ensemble, du moins ceux qui s'élèvent la Noël, mais les pouvoirs publics, encore une fois, mais également les bonnes volontés, les ONG qui quand même essayent de donner un peu de baume au cœur autour de nous, c'est une bonne chose. Nous rappelons encore que l'individualisme nourrit la peur pendant que la solidarité nourrit l'espoir. Le sujet politique numéro un, c'est les élections politiques qui reviennent en force, notamment avec le Conseil des ministres tenu le 18 décembre dernier. On sent de plus en plus que les bases légales se mettent en place pour ces élections à venir. Revue de presse avec Togo Matin qui écrit aujourd'hui que le chef de l'État se montre attentif aux travaux du CPC, le cadre permanent de concertation. Justement, Fabrice, le CPC, après un moment d'endormissement, s'est réveillé le 13 décembre dernier, le mardi dernier. Il avait été annoncé que la 13e séance aurait dû avoir hier et puis s'est reporté aujourd'hui. Avant d'entrer au studio, j'ai contacté un acteur qui m'a confirmé que le CPC va se retrouver aujourd'hui à 15h et ce sera sur la suite de ce qui a été fait il y a une dizaine de jours. Enfin, il y a 8 jours. Là, c'est quand même une bonne chose que les acteurs politiques retrouvent le chemin du dialogue et de la concertation.
Oui, c'est une bonne chose et surtout que nous sommes à quelques encablures des élections, puisque dans le premier trimestre de la prochaine année, on a des élections. Et on sent également dans l'air qu'il y a beaucoup de réformes qui seront faites. Et vous savez que généralement, lorsque il y a un protocole additionnel de la CEDEAO qui exige qu'on ne modifie pas les règles du jeu 6 mois avant les élections. Et ça peut se faire à condition qu'il y ait un certain consensus au niveau des acteurs politiques. Voilà. Donc d'où l'importance de ce cadre permanent de dialogue et de concertation qui forcément devrait s'entendre sur un certain nombre d'éléments, parce que quand vous prenez le dernier Conseil des ministres, il y a eu quand même une volonté de donner une suite favorable à certaines préoccupations, parce qu'on a eu le débat sur le découpage électoral et la question du nombre de sièges qui devrait dépendre de la démographie au lieu de la géographie et tout ça. Bon, donc je crois qu'il faut quand même un certain consensus pour pouvoir y aller, et si ce CPDC travaille d'arrache-pied, je crois que c'est de bonne guerre pour qu'on puisse aller vers des élections plus ou moins calmes et apaisées, parce qu'on sent, comme tu l'as dit, on sent quand même que les choses sont en train d'être beaucoup de choses. On a une idée plus ou moins exacte de le débat sur est-ce que les régionales et les législatives seront couplées. On a plus ou moins la réponse aujourd'hui par rapport au chronogramme que la CENI a envoyé au gouvernement, et donc il faut dire que ça se précise, et ce consensus au niveau des acteurs politiques, on en a vraiment besoin pour éviter certains bruits parfois pas très utiles.
Merci Patan. Je rappelle juste qu'au cours de la 12e session tenue le 13 décembre dernier, les membres du CPC avaient inscrit à l'ordre du jour, entre autres questions, le découpage électoral, mais également le besoin de réformer les institutions de la République qui interviennent dans le processus électoral. Ils ont également souhaité que ils ont posé même la question de l'inclusivité du CPC, entre autres. Et puis là-dedans, je reviens au point 24 du Conseil des ministres tenu le 18 décembre dernier, quand le document dit ceci: le Conseil des ministres a pris acte du bon déroulement des travaux du CPC et salué le consensus obtenu sur les différents sujets évoqués. Ça, c'est la séance du 13 décembre. Attendons ce qu'il en sera aujourd'hui. Mais pour revenir alors à la revue de presse, Le Messager écrit lui aussi que le gouvernement modifie le code électoral, pendant que Le Magnat Libéré, lui, nous indique que nous allons vers la modification du cadre du code électoral et la convocation du corps électoral. La CENI nous rappelle Le Magnat Libéré qui a proposé son chronogramme au gouvernement, qui en a débattu au dernier Conseil des ministres. Gazelle Info, Estelle, ton journal nous parle des derniers réglages avec probablement le scrutin législatif qui sera couplé avec les élections régionales, en même temps que nous allons vers l'augmentation du nombre de députés. Estelle?
Oui, c'est dit entre les lignes. Et tout analyste politique venait à venir eu égard à l'évolution de l'actualité sur la date. On sentait qu'on tendait vers le couplage de ces deux élections-là. Désormais, même si ce n'est pas encore explicitement dit, on dirait que c'est probablement ça. Les deux élections seront couplées, eu égard au Conseil des ministres dernier et le point qui est fait. Donc, on tend vers les deux élections qui seront couplées avec l'adoption de certains textes déjà. Le cadre permanent de concertation également qui est à pied d'œuvre pour obtenir le consensus sur les points qui sont discutés. Donc, il faut dire probablement. Les élections là vont se tenir dans le premier trimestre de l'année prochaine, comme la CENI l'a proposé. Et le train est sur rail pour qu'on y aille, disons-le ainsi.
Le train se met sur les rails. Vivement que ce train-là tienne solidement sur les rails et que les élections se tiennent dans la bonne organisation avec toute la transparence pour nous assurer l'apaisement. Et tout. Mais je reviens alors à la revue de presse avec Le Libéral qui annonce que la prochaine législature pourrait compter entre 117 et 121 députés. Fabrice?
Oui, toujours le communiqué du Conseil des ministres que tu as sous la main l'a dit également. La loi organique portant le nombre de députés à l'Assemblée nationale également sera retouchée, revue à la hausse. Je crois que c'est une réponse quand même à cette préoccupation de l'opposition par rapport au découpage électoral, au nombre de députés, puisque des démonstrations ont été faites pour dire qu'il y a une certaine injustice involontaire qui ne dit pas son nom. Quand on fait le ratio député nombre d'habitants, et je crois que C'est déjà acté que le nombre va augmenter. Maintenant, comment ça va se faire, tout sera dans les discussions. Mais il y a de fortes chances que les zones du Togo où la population est un peu plus forte connaissent une augmentation du nombre de députés. Je prends par exemple le cas de Lomé, la capitale par exemple, qui regorge pratiquement la plus grande partie de l'électorat, sûrement connaîtra, verra le nombre de ses députés augmenter. Alors, et vous prenez peut-être certaines localités aussi de la partie méridionale du pays aussi, forcément. Maintenant, est-ce que ça peut résoudre le problème que l'opposition... Parce qu'une chose est d'augmenter le nombre de sièges, mais le second défi, c'est d'être capable de gagner ces sièges-là. Et donc, il faudrait pas que l'opposition dorme sur ses lauriers. Ce n'est pas un cadeau, puisque de toutes les façons, là où il y aura augmentation, peut-être que le pouvoir aussi positionnera des gens. Maintenant, il faudra... Mais on sent quand même, quand on prend la configuration politique du pays, on sent quand même que dans la partie méridionale du pays, il y a l'opposition, à tort ou à raison, considère ces zones-là comme étant ses fiefs. Le monde évolue. Est-ce que ça reste toujours des fiefs acquis? En tout cas, prions seulement que les prochaines élections, tout le monde se disent d'accord sur le caractère transparent et on verra qui aura combien de sièges.
Ok, donc la question du découpage a été posée. C'est l'ANC, l'Agence nationale du champ pour le changement, qui a lancé le débat. Débat qui semble prendre, parce qu'il y a la dernière séance du CPC. On semble aller dans ce sens que le gouvernement a acté. Maintenant, la question c'était de partir sur la base du fait que chaque commune puisse élire un député. Seulement, même si on prend le critère démographique, toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne. C'est pourquoi le libéral nous annonce entre 117 et 121 députés. Attendons encore la séance du CPC aujourd'hui, le jour à venir, pour savoir. Sauf que, comme disait Fabrice, d'aucuns peuvent penser que une partie du territoire serait le fief de celui-ci ou celui-là. Mais déjà, si on prend les élections locales, Unir détient plein de communes.
Détient la majorité.
La très grande majorité des communes jusqu'ici dans la partie méridionale. Ça, c'est une réalité, Sylvestre.
Oui, effectivement, c'est une réalité. C'est pourquoi, d'ailleurs, je crois que lors des dernières émissions, nous avons demandé à ce que l'opposition mouille beaucoup plus le maillot, soit sur le terrain. Parce que, voilà, qu'on en faisait presque une sine qua non des préalables, le découpage électoral. Maintenant, les choses vont vite, ça bouge. Le gouvernement a presque entériné, acté cela. Il reste juste à définir le nombre et les conditions. Maintenant, et il faut maintenant aller sur le terrain. Mais ceux qui traînaient le pas, or, nous sommes à quelques, disons, à quelques jours des élections. C'est pourquoi, la dernière fois, on le disait, mais certains ne nous ont pas compris. Alors, pour revenir un peu sur la proposition donc de l'Alliance, puisque eux aussi, ils ont fait cas donc du nombre de députés. Eux, ils se...
L'Alliance Ensemble. Qui regroupe
Le MCD, le RCPP, et LDP de Oruapo Tchanyao. Eux, ils disent que, en fait, aujourd'hui, nous avons 91 députés. Mais s'il faut tenir compte donc du critère démographique et tout, ils se disent que, bon, on sera obligé de revenir sur les acquis. Alors, en revenant sur les acquis, on sera obligé donc de soustraire des députés à des zones qui n'en ont pas ajouté à d'autres. Ça va créer donc d'autres... ça va créer encore d'autres problèmes plus tard. Donc, eux, ils demandent à ce qu'on puisse aujourd'hui se fonder sur les communes. Aujourd'hui, nous avons 117 communes. Et presque la question des communes ne pose pas de débat. Il y a presque un consensus là-dessus. Donc, ils se disent, partons donc sur les communes. On prend les communes, on a 117 communes, au moins on a 117 députés. Maintenant, les communes qui sont plus grandes que d'autres et qui ont plus de conseillers, c'est-à-dire, parfois vous prenez à Grenivet, je crois que parfois on peut trouver 21 conseillers et tout ça. Donc, les communes qui sont plus grandes, soit on leur ajoute un député de plus ou deux députés de plus. Et là, eux, ils ont fait le calcul et ils se retrouvent donc avec 119 députés.
119
députés. En prenant en compte, donc, on part sur la base des 117. Nous avons 117 communes, donc, les communes deviendront donc circonscription électorale. Donc, on a au moins 117 députés. Maintenant, les communes qui sont plus grandes, on verra en fonction, donc, du nombre de conseillers et on peut leur octroyer encore un député ou deux députés de plus. Lorsqu'on fait tout ce tralala là, on se retrouve avec 119 députés. Je crois que ça tient pour l'instant, mais comme ils vont se retrouver donc ce soir, on verra ce qu'ils vont hâter. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est comme nous allons vers une augmentation du nombre de députés. Mm-hmm. Ça, c'est presque acquis. De 91, on passera forcément au-delà de 100 ou 117, mm-hmm. où on aura au moins les 117. Maintenant, il reviendra à l'opposition de mouiller le maillot pour dans les 117. Au moins pour une fois avoir la majorité comme en 80.
L'opposition va mouiller le maillot peut-être et faire un bon score, sauf que cela va appeler des incidences financières.
Oui, ouais.
Parce que nous sommes aujourd'hui 91 députés. Si on monte à 117, ça veut dire qu'il y aura 26 nouveaux députés.
Ouais.
Et selon la formule la plus optimiste de l'Union libérale, si on va à 121 députés, il y aura 30 nouveaux députés. Or, un député, il a droit à ses indemnités, à son cabinet, à sa voiture de fonction, à son bureau et à son ceci.
Non, c'est ceux qui sont présidents des commissions,
qui
ont eu que des voitures de fonction.
Mais voiture écoute quand même.
Mais écoute quand même.
Mais écoute quand même.
Il y a ce communiqué de presse que vient de sortir l'association Veille Citoyenne du Togo, que j'ai résumé, hein, Estelle. Veille Citoyenne du Togo attire l'attention sur les implications financières considérables pour l'État togolais déjà confronté à des difficultés budgétaires. Tu te rappelles, lorsque le Togo a conclu le tout dernier accord avec le FMI, le FMI demandait, entre autres mesures, que l'État togolais réduise ses frais de fonctionnement. Alors, si nous avons 26 nouveaux députés, voire même 30, est-ce qu'on réduit les frais ou bien on les augmente? Et puis, Veille Citoyenne du Togo continue en rappelant que le développement d'un pays ne se mesure pas uniquement au nombre de ses représentants politiques, mais plutôt à la capacité de répondre aux besoins réels de la population. Donc, c'est les incidences financières d'une probable, sinon plus ou moins certaine augmentation des députés à l'Assemblée nationale. Estelle ?
Oui, la logique est là tout de suite. Ça entraîne forcément des augmentations. Mais comme on le dit généralement, gouverner, c'est prévoir. Si on va aller à l'augmentation, c'est que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assumer tous les frais que cela entraîne. Mais au-delà de ça, au lieu de rester peut-être dans une configuration où on peut comprendre qu'il s'agit à peu près d'un... je ne sais comment il faut le dire. C'est comme si on satisfait juste la classe politique. Aujourd'hui, force est de constater qu'une fois que les députés viennent réclamer leur élection, une fois que la voix leur est accordée, il est difficile de retrouver même certains dans leur fief. Ils ne retournent même jamais sur le terrain. Mais aujourd'hui, la satisfaction viendra, malgré le fait peut-être que ça va entraîner des frais et qu'on va augmenter le nombre de députés, que les populations à la base ressentent quand même l'effet de ces élections-là de leur homme à l'Assemblée où il les représente, qu'ils reviennent de temps en temps au niveau de leur fief, faire des actions, recevoir un peu les inquiétudes des populations, les besoins, et faire des plaidoyers pour que les populations à la base puissent bénéficier également de ces nominations-là. Sans ça, ça va s'apparenter à une satisfaction personnelle. Mais des hommes qui
raison,
sont
à
l'Assemblée.
Et puis, quand tous les députés tout. D'ouvrir un bureau du député
dans leur fief, dans là leur où fief. Ils sont élus.
Mais bon. Ça aussi, il faut le dire. Bon, je suis d'accord. Hein.
Oui.
C'est budgétivore. Mais quand on prend aujourd'hui ce qu'on donne à nos députés comme, je ne sais pas comment ils appellent, prime ou je ne sais pas quoi, c'est rien du tout. Je vois qu'ils sont autour de 1 million, combien là, 200.
Oui, mais il faut avoir un petit projet, un petit budget, voir par rapport à ce qu'on
fait. C'est pour cela, moi, peut-être il aurait... Au lieu d'augmenter le nombre de députés, est-ce qu'il fallait pas peut-être penser aussi à augmenter leur émolument? Parce qu'effectivement, c'est rien. Quand vous demandez, peut-être que toi, tu es de la région maritime, si tu es député, c'est facile d'aller... Ne demande pas la même chose à quelqu'un qui vient de la savane, un député qui vient de la savane. Ça aussi, il faut que l'État réfléchisse, parce que le pays, il est entier, il appartient à nous tous. Voir, est-ce qu'il n'est pas temps de ne pas loger les députés à la même enseigne? Effectivement, il y a des gens, bon, juste un détour, même en Zemidjan, il est dans sa circonscription. Il y en a qui sont là tous les jours là-bas, ceux qui sont élus, par exemple, à Lomé. Mais quand vous prenez un député qui est élu, je ne sais, dans le Klingal, et qui siège à Lomé, et à qui on dit ne rentre pas au village régulièrement, et qu'il faut que dans le mois, peut-être, il y rentre deux ou trois fois, vous comprenez que, effectivement, nos députés ne peuvent pas faire le travail qui leur revient. C'est pour cela, moi, je pense que, la question d'augmentation du nombre de députés est purement politique. C'est pour satisfaire les desiderata politiques. Sinon, en réalité, le débat, c'était de voir combien on doit payer à nos députés pour qu'ils puissent vraiment faire un travail sérieux. C'est pas le nombre qui nous intéresse, nous, mais combien on peut leur donner pour sûr. Mais je ne pense pas qu'avec ce qu'ils reçoivent là, ça peut permettre à quelqu'un de créer un cabinet, recruter un juriste qui lui explique comment les tests fonctionnent et tout cela, et aller et demander aux députés. Mais une fois, il y a un député, même le programme de, comment l'appelle-t-on, dans les établissements scolaires, là, on vous tend la facture. Vous rentrez, c'est les ordonnances, ceci. Il y en a même qui sont obligés de construire des forages et tout cela. Avec combien? Oui. Avec combien? Ça oui. Aussi, il faut poser ce problème-là.
Ah oui, surtout qu'au moment des campagnes électorales, certains candidats versent même dans des promesses qui
justement. Il faut être mesuré aussi par rapport à ce qu'on a.
Maintenant, à la rentrée, on leur tend des listes de fournitures.
Quand il y a concours de la fonction publique,
on vous donne les listes.
C'est pourquoi il y a des gens qui leur disaient de ne pas promettre.
Non, on ne peut pas faire des promesses.
Surtout que certains construisent des pistes, construisent des forages, construisent des salles de classe, offrent des ambulances. On dit, pourquoi Fabrice le fait chez lui ailleurs des
moyens? Mais c'est un peu fort avec le peu de moyens, effectivement. Il y a une volonté manifeste quand même. Il y a certains également qui sont là, mais ne font absolument rien.
Il faut qu'on explique aux citoyens le rôle du député. Ça aussi, à un moment donné, le politique a fait que les gens ont fait du zèle. En construisant, le député ne construit pas. C'est la mairie qui s'en charge des pistes rurales et tout cela. C'est pas le rôle.
Quand tu as promis ça au bout de la campagne.
Justement,
celui qui veut être député aussi, il faut qu'on lui explique son rôle pour qu'il n'aille pas faire
certaines choses.
Je vous raconte cette petite anecdote pour finir. Il y a un jeune député de cette législature. Un jour, il dit qu'il reçoit un bonhomme qui vient, qui lui dit que lui, il a fini sa maison, mais il lui reste le toit. Alors que le député lui-même n'a même pas encore commencé de chantier. Vous comprenez là où les citoyens les mettent. Mais alors qu'en réalité, avec ce qu'ils prennent là, faut pas obliger les gens à faire d'autres choses pour venir financer.
Moi, je voulais revenir un peu sur la formation donc des députés. Parce que j'ai échangé avec un député de la tienne législature qui a presque avoué que ensuite concerne donc le vote des budgets qui ne comprennent rien. Il a dit ouvertement que sur les débats concernant donc les budgets, le budget national et tout ça, que en réalité ils comprennent rien. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi je dis qu'il faudrait véritablement, déjà comme ça normalement, pour un député, d'avoir un cabinet, un juriste à côté qui t'explique les thèses, que voilà comment. C'est pourquoi les gens, ils viennent parfois, les gens dorment et puis ils se réveillent. Lui aussi, il lève la veille.
Les gens sont ils ne comprennent rien jusqu'à quand.
Ta préoccupation rejoint ce que disait.
Justement, c'est pour appuyer.
Avec quel fond le député va recruter le juriste qui va l'aider à mieux comprendre.
Mais est-ce que les députés, même ont une fois posé le débat?
Si, publiquement.
Oui.
Ok.
Est-ce que c'est posé?
Non, ce n'est pas ceux qui sont au Parlement de règles. Tu peux devenir député demain, mais est-ce que dans ces conditions-là, la critique que tu fais, si tu deviens aujourd'hui député, tu ne feras pas mieux que ce que les autres font.
Eh bien, cela nous renvoie à la base. Hein, sur quels critères les députés eux-mêmes se signalent et sur quelle base leurs formations politiques les choisissent pour les positionner.
Maintenant aussi, il faudra 6 ans.
La première partie, je voudrais quand même que nous ayons une intention
à la
République démocratique du Congo, pendant que nous, au Togo, on peut trouver que coupler les élections législatives et régionales, ce serait trop pour nous. Voilà ce pays, continent, qui fait 2 344 000 km², une population qui fait plus de 90 millions d'habitants, 44 millions d'électeurs, s'il vous plaît, et ce pays qui tient aujourd'hui même 4 élections en une. Il y a le président de la République, il y a également les députés, il y a les élus provinciaux et municipaux, qu'ils choisissent aujourd'hui même, souhaitons leur bonne chance et que les incidents qui commencent à pointer, donc qu'on nous signale, que cela soit réduit au minimum et que ce pays vraiment puisse bien sortir de ces élections, comme nous aspirons également tenir ces élections couplées, régionales et législatives, dans toute la transparence, dans des conditions d'apaisement et de paix pour que nous puissions repartir à bâtir notre pays dans la solidarité nationale, que celui qui a un peu plus regarde vers son voisin, son frère, ses deux estomacs rassasiés qui rient ensemble.
Oui, oui, ça c'est important.
Pour l'ordre, on vous impose d'arrêter la première partie à 12h. Michel, nous nous inclinons, il est 12h, tu peux lancer tes appels, un message à l'endroit des partenaires, et puis après, nous nous branchons sur les auditeurs.
93.5.
Il est 12h06, vous nous avez écouté sur les sujets évoqués aujourd'hui, santé, éducation, avec les comportements que nous devrions adopter dans ces périodes de fête, la solidarité à laquelle nous sommes appelés, et puis l'imminence des élections législatives et régionales. La parole est à vous, premier auditeur, bonjour.
Bonjour, Jean-Pierre Daou.
Oui, Benoît Dagoué.
Oui.
Ok, allez-y.
Bon, moi je veux comprendre une chose. La différence entre un député et un maire. Le problème de découpage au Togo, je pense que ce n'est pas le nombre de maires ou bien de députés. Il s'agit du nombre qui élise un maire, le nombre. Maintenant, on nous propose 217-121. Ils n'ont qu'à nous dire, la FENI ou bien le gouvernement pas nous donner le chronographe. Alors, on va savoir de quoi on va faire. Maintenant, on met des histoires. Et aussi, j'aimerais terminer par là, en disant que, vu nous sommes à la fin de l'année, je pense que les maires n'ont pas... Et je m'arrête là. Bonne journée.
Eh bien, très rapidement, c'est des tractations qui sont en cours. Attendons la conclusion officielle. Mais pour le moment, nous vous informons. Seulement rappeler que le maire est élu par les conseils municipaux, alors que le député, lui, va être élu directement par la population. En temps opportun, nous y reviendrons. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour, bonjour Sass,
oui,
bonjour
Didier.
Fabrice, bonjour Estelle, bonjour Sylvestre, Didier.
Allez-y Didier.
Moi, je ne suis pas d'accord avec Estelle, parce qu'il dit que les députés, une fois qu'on les dit, ils ne retournent pas sur leur lieu. Moi, je suis entièrement faux. Mm-hmm. Est-ce qu'on cite un député qui est lui qui n'a pas retourné sur son lieu d'élection? Ça aussi, c'est une façon de décourager les gens à s'intéresser aux élections, au moment où nous voulons que les gens s'intéressent à la politique pour qu'ils puissent aller voter. Et puis, nous, l'essentiel, c'est pas que l'opposition gagne ou l'opposition ne gagne pas. C'est l'équité que nous voulons. Oui. C'est pourquoi moi j'ai proposé que pour que le Togo devienne 51 en fonction du vote poids, vous avez un député. Oui. C'est-à-dire, les gens parlent comme si c'est l'opposition réclame pour pouvoir gagner. Non, nous on n'est pas dans ça. C'est que, il faut l'équité dans les élections pour que tout le monde sache que, à telle voix tu as tracé ces élections. Ce qu'on nous fait que quelqu'un a dit depuis, 10 000 voix, il a un député, c'est quelqu'un à 100 000 un député. Ça, c'est la tricherie complètement. Mm-hmm. Et puis, le rôle du député aussi, il faut qu'on explique aux gens. Le député, c'est pas aller faire des pompes et aller faire des trucs là. Ça, c'est la salle de conscience, on appelle ça en Europe, c'est la salle de conscience. Mm-hmm. Le député est libre pour élire des voix. Il est député de la nation, pas de sa localité, de toute la nation. C'est des mandats impératifs. Un député est un député de la nation. Donc, faut qu'on délie qu'il va aller faire les pompes, il va aller faire. Non, c'est pas son rôle. Là, je suis d'accord avec Patrick. C'est pas son rôle. C'est un rôle, c'est légiférer. Et puis, pour le compte de toute la nation de son et de sa localité. Merci beaucoup.
Je vous en prie, effectivement, deux fonctions essentielles, c'est légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Maintenant, les députés s'inventent sur des terrains qui leur causent des problèmes après. Le suivant, bonjour. Alors, ici.
C'est un moment, j'essaie de l'appeler.
Et aujourd'hui, c'est bon.
Tu ne piques pas, comme si, voilà quoi.
Non, ici, c'est pas moi qui décroche directement le téléphone.
Le téléphone. Okay. Si on peut me prendre et puis qu'on attend. Okay. Comme si
aujourd'hui, on vous a prise. Si, allez-y.
Mmh. Voilà. On parle depuis des années, non? Des bas sur des bas, des personnes pour un député, des personnes pour un député par-ci, tout ça là. Pourquoi personne ne fait jamais appliquer la constitution qu'on fait donner dans la République? Moi, je comprends pas les gens. Les politiques, là. Et même la société civile, tout ça. Pourquoi ils ne fassent pas appliquer? On a une belle constitution, non? La oui. 92, là.
Mm-hmm.
Elle est très belle. C'est une constitution Bible. Mais pourquoi les gens contournent tout ça? Là, on fait des mandats non limites, et des ordres, tout ce qu'on veut. Et Yaya, là. Monsieur Yaya de la Cour suprême,
oui.
qui sort au bout de 60 ans, 40 ans, pour nous lancer des trucs comme s'il ne vivait pas au Togo.
Alors, et si, hein? Selon oui. vous, quelle est la priorité dans la Constitution qu'on devrait relever?
La priorité, c'est que les gens respectent les articles, tous les articles que constitue la Constitution.
Mm-hmm.
On n'a qu'à respecter tout ça là. On sera bien, on a des droits nobles dedans.
Je vous rappelle que le président de la République, quand il prête serment, il prend l'engagement de protéger et de faire respecter la Constitution.
Bon. Mais il respecte ça. Maintenant, moi, je propose même qu'on apporte la Bible et nos vaudous, nos vrais vaudous. Ils n'ont qu'à jurer dessus. Vraiment, on est fatigué, quoi.
Ok.
Eux-mêmes, ils sont fatigués de
nous faire apporter...
appliquer la Constitution.
Non, et si, selon vous, oui, selon vous, on apporte le Coran, la Bible ou le vaudou lui-même?
Pardon?
Et donc, selon vous, on doit apporter le Coran ou la Bible ou le vaudou lui-même?
Ça, là, on n'a pas apporté tout ça là pour les prochains.
Okay.
Et puis, moi, je veux dire, est-ce que c'est écrit dans la Constitution qu'un seul régime va organiser seul en catégorie toutes les élections? Vous avez vu ça où? Pardon. Merci.
Merci. Et je juste vous rappeler que c'est le CPC qui marche le travail et le gouvernement valide et puis on va de l'avant selon la dernière mesure, la dernière forme que prennent les choses. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Johannes.
Nous vous écoutons.
C'est bien beau de dire à l'opposition de mouiller le maillot. Mais il faut également relever que à chaque fois que l'opposition est empêchée d'organiser des choses dans ce pays, il faut également relever ça, après avoir relevé que l'opposition doit mouiller le maillot. Je ne vois pas comment, par quelle magie, l'opposition peut mouiller le maillot si tous les jours, on empêche l'opposition de mener ses activités. Pas plus tard que la semaine passée, ou bien le début de cette semaine, je pense, il y a encore un meeting de la DMK qui a été empêché à Kara. Et ça se passe tous les jours. C'est vrai, vous allez nous dire que vous en avez parlé. Mais tant que ça se passe, je pense que vous devez continuer à le dire. Parce que ne plus le dire, ça, c'est comme si tout se passe bien dans le pays. À chaque fois que vous dites, étant donné que, si je prends un point par exemple, à chaque fois qu'on veut parler de politique, tout ça là, vous répétez chaque fois que l'opposition doit faire ceci, doit faire ceci. Sur ce point, vous ne nous dites pas que vous l'avez déjà dit. Vous le dites chaque fois que c'est nécessaire. Donc, à chaque fois que ces choses se passent aussi, je pense que vous devez le relever. Parce que c'est la volonté du pouvoir de
cacher. L'ami Johannes, c'est très gentil d'attirer notre attention, sauf que nous sommes maîtres de l'agenda des sujets que nous soumettons à débat. Actuellement, il y a le parti Adi de M. Aimé Goguet, qui a entamé une tournée. Dès que nous aurons des problèmes, que Goguet a des problèmes sur le terrain, nous en parlerons. Mais si on ne parle que du train qui arrive en retard, donc que les partis commencent sur le terrain, s'ils ont des problèmes, partis à notre connaissance, nous vous en parlerons. Oui, le suivant, bonjour.
Oui, ça c'est bonjour.
Oui, c'est monsieur.
C'est Karim, le taximan.
Ah, ça fait un petit moment.
Oui, ça, ça.
Ah, vous étiez retourné au champ?
Non, actuellement, je suis à Lomé actuellement.
Ok, allez-y, Karim.
Ça, ça, je suis vraiment un peu en colère. Et vous avez une fois pris la route d'Atakwami actuellement?
Ça fait 3 mois, je suis allé à Sokoré.
Oh, ça, si vous prenez la route d'Atakwami actuellement, Oh, ça va te faire pitié.
À quel niveau? Sur quel tronçon?
Je vous dis de Thiébié jusqu'à Anotien.
Oui.
Là. Cet écran trou, la route est gâtée.
Vous avez raison.
Et pourquoi son excellence nous fait ça? 18 ans au pouvoir. Pourquoi il nous fait ça? Il nous fatigue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait de mal? On lui demande pardon. Avant de voyager maintenant sur la route là, il faut au moins pneus secours 4, sinon tu vas casser tes pneus jusqu'à arriver à Anotien. C'est les pneus seulement tu vas casser. On paye péage 500. Les critiques payent. Moto, les grands titans, OTR, tout ça là. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Bonne journée.
Merci, beaucoup de courage à vous, Karim, et à moi et à nous tous. Le suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Monsieur Nyamava.
Monsieur Nyamava, nous vous écoutons.
Oui, je remercie Karim qui vient de quitter. Le chef de l'État qui a toujours promis faire double voie de Lomé à Saint-Cancé, des chemins de fer qui sont des éléphants blancs. Voilà une seule route qu'on n'arrive même pas à avoir en bon état. Bon, par rapport aux élections, la transparence, oui. L'opposition, oui. Quelqu'un, les prédécesseurs l'ont évoqué. Je disais entre-temps que la partie septentrionale est fermée à l'opposition. Donc j'invite les journalistes, les sociétés civiles à braquer leurs yeux sur les paramilitaires que Maman appelle dans les pays Gondwana. Ils sont paras, après on ouvre les enquêtes, on ne sait pas qui est chef de ces paramilitaires. Certains l'appellent les individus d'autodéfense. Donc, qui, avant, pendant, après, règle les élections, les problèmes d'élections dans le septentrion? Je sais ce que j'ai dit. Donc, ceux-là, on ne connaît pas leur chef, on ne sait pas comment ils opèrent. Gare à toi si tu veux parler de l'opposition dans le Nord. Donc, voilà quoi. Je vous remercie.
Je vous en prie. Quand les partis politiques iront sur le terrain, si nous avons connaissance de quelque incident que ce soit de la part des forces de sécurité publique, ou bien des paramilitaires, ou bien des gros bras, comptez sur nous, nous en parlerons. Le suivant, bonjour.
Oui, c'est Johannes qui revient.
Ok, bon retour.
Ça, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Lorsque, souvent, je fais la remarque, lorsqu'un auditeur intervient et que vous le reprenez dans son intervention pour faire une précision, mais le technicien se précipite pour couper l'auditeur. C'est ce qui s'est passé à mon niveau actuellement. Alors que mon intervention n'était pas encore finie.
Ok, terminé, Johannes.
Donc, il faut plus que ça se répète. Ça serait bien quand même. C'était pour dire que l'objectif du pouvoir, c'est que ce genre de choses restent cachées. Que cette dictature qui continue dans le pays reste cachée. Donc, le fait que les journalistes ne le révèlent pas, ça contribue au jeu du pouvoir. Ou soit, je ne sais pas si, comme la dame Estelle nous l'a dit la semaine passée, si c'est parce que vous considérez que ça fait partie du jeu politique, c'est pour ça que vous n'en parlez pas.
Johannes, quand vous aurez connaissance d'un incident quelque part, informez-nous, nous allons recouper et nous viendrons en parler. C'est bon?
Je vais donner un exemple tout à l'heure. Merci et bonne journée.
Je vous en prie.
Hello.
Oui, bonjour.
Serge, bonjour.
Oui.
Votre ami Evangeliste Senghor. Je salue tout le plateau.
Nous vous saluons aussi.
S'il vous plaît, nous sommes là pour combler le temps sur la terre. Prenons le cas de George Weah et son papa. Quelqu'un qui gagne les élections. Il est parti aux États-Unis, il dit à George Weah, va me retrouver à COP28 en Dubaï. Est-ce que ce n'est pas bien? Ce n'est pas joli? Dis-moi. Mais après la présidence, il y a encore une autre vie meilleure que ça. C'est ce que nous oublions, franchement, il faut que faire le message que après la présidence, il y a encore une meilleure vie. Mais n'oublions pas que toutes les actes que nous posons comme du bien, du mal, va nous rattraper un jour. On est là pour un petit temps. Mais pour les élections, l'autre fois, il y a Talon qui a reçu, Yahi Boni, l'autre président, ancien président, ils étaient là discuter pour le bien de la nation. Vous voyez, si on pouvait partir avec au moins quelque chose, mon grand-père demain allait partir avec les Togolais, tous les Togolais. Vous voyez, nous sommes là pour un petit temps. Il faut que faire les élections, là, soit crédible. Crédible plutôt. Il faut que vraiment le pouvoir s'assied avec l'opposition, discuter ensemble. Qu'est-ce que nous allons faire?
L'ami Senghor, nous vous disons que le CPC va se réunir cet après-midi à 15h. C'est pas voilà, ce que vous souhaitez?
C'est ma prière.
Ok, voilà, continuez à prier. Continuez à prier dans vos églises et le Togo se portera mieux.
Merci.
Je vous en prie. Merci à Benoît Dagoué, à Didier, ici, Johannes par deux fois, Karim, Nyamavo, Johannes, encore, et puis Monsieur Senghor. Voilà le débat qui est inclusif, hein, ça va dans tous les sens. Sylvestre Béni, plutôt Fabrice, même si certains auditeurs pensent que c'est nous qui devrions faire aller, que les choses aillent beaucoup plus vite, alors que nous avons deux armes, c'est le stylo et le micro.
Oui, et c'est ce que nous faisons. Peut-être qu'on attend un peu plus de nous. Bon, je crois qu'aujourd'hui, quand même, nous partageons quand même beaucoup de plateformes avec des gens qui ont aussi l'occasion de dire ce qu'ils pensent. Hein. Le pays est ouvert. La preuve, cette émission, tu l'as commencée, on le faisait entre nous. Mais entre-temps, les programmes ont trouvé opportun d'ouvrir l'antenne aux auditeurs. Je crois que c'était pour participer, amener les auditeurs à participer à cette émission et également à dire ce qu'ils pensent. Donc ça voudrait dire que nous sommes dans un pays où tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense par rapport à la gouvernance, par rapport à ce qui se passe dans le pays. Mais on n'est pas omniscient non plus. On peut être au courant de certaines choses, pas d'autres. Et je crois que c'est pour cela, parfois aussi, certains attirent notre attention. Et comme tu l'as dit, si on a des informations, on va les partager. On ne fera pas de rétention d'informations. Qui se rassure, c'est tout.
Merci. Sylvestre Béni.
Oui, je crois que le problème donc, des jeunes de Carala revient avec insistance depuis quelques semaines, qu'il y a certains jeunes qui empêchent les membres de l'opposition donc, de faire leur activité. Je crois que la DMK l'avait souligné par deux fois, la DMP aussi. Oui, même la DMP disait que l'un des leurs qui est originaire donc du milieu et qui est à Lomé, mais qui y va très souvent, il a même été menacé donc on lui a menacé qu'on va incendier son véhicule et plus tard, je crois, son véhicule a été incendié, je crois, à hauteur de Chivio. Bon, la DMP avait quand même soulevé, je crois, il y a quelques semaines. Donc, il faut calmer déjà les ardeurs parce que nous sommes à l'orée donc des élections. Il faut permettre donc à tout le monde, que ce soit pouvoir ou opposition, d'aller partout, hein, dans toutes les contrées donc du pays pour aller battre campagne, discuter avec les populations. Mais si certaines zones doivent paraître comme des zones de non-droit ou et inaccessibles à un bon politique, je crois que ces jeunes-là qui s'adonnent à ce vilain plaisir-là, il faut rapidement les décourager. Donc avis donc au ministre donc de la protection civile, hein, au ministre Calis qui sera donc qui va faire son baptême de feu pour les prochaines élections. On sait ce que ça donne donc dans notre pays. Il faut calmer ces jeunes là, hein, que le jeu soit transparent, que le jeu soit démocratique, que le jeu soit équitable. Comme ça à la fin, ce sera donc une fête pour ces élections là. Je finis en donnant donc un carton vers à l'ONG Togo Environnement Propre, parce que j'ai suivi une vidéo où ils étaient dans Golf 1 la dernière fois et ramassaient les bêtes qui circulaient ça et là dans les quartiers. Je crois que c'est une œuvre salutaire, parce que vous allez même à Lomé partout, mais vous voyez des bêtes qui traversent, qui vont et viennent, on ne sait même pas leur propriétaire, tout ça. Il faudrait qu'on commence même à saisir ces bêtes là. Si je peux travailler dans cette ONG, ce serait bien. Il faudrait même qu'on commence à saisir ces bêtes-là, parce que c'est pas sérieux, quoi.
Merci. Donc, félicitations. J'ai vu également ces vidéos, nous en parlons souvent. Mais en même temps, il y a un message, un peu de tristesse, hein, qui m'est venu de Vaud. Oui. Quand l'auditeur de Vaud prend acte qu'à Lomé, il y a Togo Environnement Propre qui va ramasser les bêtes en errance, pendant que dans le Vaud, des troupeaux de bœufs vont ravager les cultures, des champs. Toute l'œuvre de toute une saison que les bêtes vont ravager en une seule fois et personne ne dit rien.
Ça, c'est la question de transhumance, l'éternelle question de transhumance.
Même pas de transhumance, parce que ce sont des troupeaux sédentaires qui dévastent maintenant nos cultures devant l'incapacité, voire la passivité. C'est un problème qui dépasse les préfets, les maires, les CB, les commissaires. Tout le monde est dépassé. Peut-être qu'il n'y a que le ministre de l'Agriculture que nous devons encore interpeller, ou comme nous savons si bien le faire, le président de la République, qu'on laisse les troupeaux dans leur enclos et que les paysans puissent travailler dans leur
champ. Là, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que pour ce problème minime, on doit interpeller le chef de l'État. Je vois que c'est trop.
Parce que je te dis que les préfets sont dépassés, les maires sont dépassés, les CP sont dépassés, les commissaires sont dépassés et impuissants. Alors maintenant,
impuissants devant qui?
Devant les troupeaux qui vont dépasser les troupeaux.
Est-ce que... Non, moi je vais terminer en disant, je crois que c'est Didier qui m'a interpellé, je reprécise ce que j'avais dit. Je n'invente rien. En fait, c'est les tests qui disent que les députés doivent avoir un bureau de députés dans leur fief où ils ont été élus. Puis ils viennent quand même demander des voix au niveau de leur circonscription. Donc, il est de bon ton. Mais même si je suis d'accord que leur rôle consiste à légiférer, à contrôler l'action gouvernementale, s'ils ne côtoient pas les populations à la base, comment est-ce qu'ils recueillent les besoins pour légiférer dans ce sens-là? C'est aussi important. Mais bon, ça reste son avis. Et comme la liberté d'expression prime, je respecte son avis. Donc, nous ne sommes qu'en train de faire notre travail. Si nous avons des informations, nous débattons par rapport aux informations que nous avons. Mais si les auditeurs et les auditrices ne sont pas satisfaits, qu'ils nous donnent des informations, nous prendrons le temps de les vérifier en amont. Et quand nous viendrons en débat, nous posons ça et nous faisons des recommandations par rapport à ce que nous avons comme information, tout simplement.
Merci.
Merci à tous.
Gadiel.
Il se passe un phénomène souvent sur la route d'Azido Gomé allant à Zangira. Il y a une sorte de... c'est le constructeur de cette route qui soulève la poussière. Je ne sais pas si c'est un camion qui vient avaler la poussière sur la route, en toi qui vient faire le ménage sur la route, et ça soulève une poussière terrible.
Le camion qui est censé balayer la rue.
Ah, c'est un balayeur.
Oui.
Ok. Le balayeur, oui, il le fait en plein journée d'abord. Et bon, vous savez, ce qui sort de la poussière, c'est de la maladie. Donc, je ne sais pas si le moment approprié, c'est en ce moment approprié qu'il faut venir balayer la route. Mais c'est très mauvais parce que quand on passe, cela crée vraiment un embouteillage ou bien un blocage au niveau de la route.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Nous souhaitons tous bon appétit. On digère bien les informations du Club La Presse. Nous allons également manger avec appétit, que nous allons bien digérer. Et puis rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut. Et prions que Dieu le veuille.